Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième épisode de notre série au chevet de la santé. Après avoir traversé les siècles en compagnie des médecins médiévaux et des apôtres de l'hygiénisme, c'est l'économie du médicament que nous allons examiner aujourd'hui. Le marché pharmaceutique mondial représente pas moins de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Un secteur qui continue son ascension sous l'effet, entre autres, de l'explosion de la demande de médicaments dans les pays émergents. Les grands laboratoires ont pourtant connu une série de bouleversements depuis les années 90. L'essor des génériques et la révolution des biotechnologies les ont poussés à transformer leur modèle économique. Alors avec quelles conséquences financières mais aussi sanitaires pour les malades? Voilà la question qui va nous occuper aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des nouveaux défis de l'industrie du médicament en compagnie de Nathalie Coutinet, économiste à l'Université Paris 13, auteure avec Philippe Abécassis d'une économie du médicament publiée à La Découverte et membre des économistes atterrés, en compagnie également de Jean-David Zeitoun, médecin et consultant pour des cabinets de conseil en lien avec l'industrie pharmaceutique, notamment Johnson & Johnson et Pierre Fabre. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Votre mission, combattre la maladie sur tous les fronts. Certains effets obtenus à titre expérimental sont en attente de validation par les autorités sanitaires. Mais vous pouvez booster les ventes quand même en suggérant ces effets bénéfiques. Le Zoloft est un médicament uniquement autorisé pour le traitement de la dépression. Ses indications parallèles? Alcoolisme, boulimie, syndrome prémenstruel, tabagisme, agoraphobie. Y a-t-il des questions?
Le Zoloft a été associé à des pulsions suicidaires chez les adolescents?
Non prouvé.
Prouvé, mais non signalé.
Votre mission consistera à partager cette technologie. Votre mission consistera à sauver des vies. Aujourd'hui, l'industrie de la santé représente 2 billions par an. Les 10 plus grands groupes pharmaceutiques gagnent plus d'argent que l'ensemble des 490 autres sociétés les plus importantes de ce pays. Bienvenue chez Pfizer.
Nathalie Coutinet et Jean-David Zeitoun, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait du film Love et autres drogues dans cette comédie signée Edward Zwick, un fringant et cynique représentant d'un laboratoire pharmaceutique rencontre dans les années 90 une jeune patiente atteinte de la maladie de Parkinson. Et on entendait ici la responsable du laboratoire Pfizer s'adressant aux visiteurs médicaux chargés de vendre des antidépresseurs. Un premier mot sur cet extrait, Nathalie Coutinet.
Ah bah c'est une comédie romantique mais qui est assez amusante parce que le héros est visiteur médical et c'est le moment où il y a une forte concurrence entre deux antidépresseurs et où Pfizer va sortir le Viagra et donc le héros va devenir le visiteur médical du Viagra.
Est-ce que dans cet extrait, ce que l'on entend, Jean-David Zeitoun, ce sont certains excès de l'industrie pharmaceutique qui sont peut-être moins présents aujourd'hui?
Oui, je pense que l'extrait qu'on a entendu résume souvent les torts qui sont reprochés à l'industrie, qui sont connus et qui sont toujours les mêmes depuis des dizaines d'années. Elle gagne trop d'argent, elle ne se préoccupe pas si tant que ça de la sécurité des patients, etc., etc. Et donc, cette comédie a l'air de résumer ça, même si je ne l'ai pas vue.
Et Nathalie Coutinet, on peut dire que ces stratégies, ces visiteurs médicaux, par exemple, aujourd'hui, sont quelque chose que l'on observe beaucoup moins.
Alors, les méthodes marketing des pharma ont beaucoup changé. Elles ont été effectivement beaucoup de réglementations parce qu'il y avait évidemment des abus, des pots de vin aux médecins, etc. Donc, les méthodes ont changé. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les industries pharmaceutiques sont des industries. Et comme toute industrie, leur objectif, c'est de faire des profits. Et elles en font d'ailleurs beaucoup.
Alors justement, qu'est-ce qui fait du médicament, Nathalie Coutinet, un bien qui doit faire l'objet d'une supervision spécifique de la part des autorités?
Alors déjà, un médicament, c'est ce qu'on appelle en économie un bien tutélaire. C'est-à-dire que c'est un bien qui, parce que il apporte ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire qu'il soigne les patients et donc il évite aussi la propagation de maladies, etc., tout comme les vaccins. Ce sont des biens qui doivent être encadrés et encouragés par l'État. Donc le médicament, c'est un produit qui est fortement encadré dans tous les pays du monde, encadré par les pouvoirs publics. D'abord parce que c'est un produit qui est dangereux, La définition même de l'OMS, c'est que c'est un produit dangereux, un médicament. C'est un produit dangereux, mais évidemment qui soigne, hein, dont l'objectif est modifier les fonctions métaboliques de l'organisme. Et donc, à ce titre, il doit être produit dans de bonnes conditions. Donc, le médicament subit des autorisations de mise sur le marché et les fabricants doivent respecter ce qu'on appelle des bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés dans la façon dont ils produisent le médicament, encore une fois, du fait de sa dangerosité. Et puis, la consommation de certains médicaments est encouragé, c'est le cas des vaccins par exemple, puisque les vaccins ont un effet qui déborde le patient lui-même. Évidemment, si on n'était pas vacciné, on aurait encore des tas de maladies qui n'existent pas.
C'est en cela que Kenneth Arrow démontre que c'est un commerce, le commerce du médicament, qui ne peut pas être laissé aux seules lois du marché.
Non, c'est pas pour cette raison. C'est parce que le médicament suppose des investissements en recherche et développement très importants. Hein, c'est un secteur dans lequel l'innovation est évidemment fondamentale. Et en économie, l'innovation, on considère, si vous voulez, que l'innovation des firmes va difficilement se faire naturellement parce qu'elle est appropriable, l'innovation. C'est-à-dire qu'une firme, si elle elle dépense beaucoup d'argent pour découvrir un produit et que celui-ci n'est pas protégé, elle risque de se faire évidemment voler son innovation, auquel cas on considère qu'elle ne le fera pas. Donc finalement, il y a deux solutions d'un point de vue économique. Soit il y a des brevets, ce qui est le cas d'ailleurs dans l'industrie pharmaceutique, qui vont protéger les innovations des firmes pour les encourager à innover, ou alors, autre solution prônée par Arrow, qui est un économiste américain, ou alors c'est à la puissance publique de faire ces innovations. Finalement, c'est l'État qui va prendre en charge ces innovations. Et à ce moment-là, elles n'auront plus forcément besoin d'être protégées puisqu'elles auront été financées collectivement par l'argent public.
On va voir que l'innovation est aujourd'hui au cœur de tous les débats qui concernent l'industrie du médicament. Mais d'abord, Jean-David Zeitoun, ce qui a changé peut-être aujourd'hui, c'est que de plus en plus, le patient pratique l'autodiagnostic et parfois l'automédication, et grâce notamment aux informations collectées sur Internet. Pour l'industrie pharmaceutique, on peut dire qu'il s'agit là d'une opportunité ?
Honnêtement, je ne crois pas trop à ça. L'autodiagnostic et l'automédication montent, mais de façon très, très minime.
Et donc, France, de façon minime, mais aux États-Unis, de façon beaucoup plus importante.
Oui, ça monte un peu plus parce que les Américains sont plus des consommateurs dans l'âme. Mais franchement, je ne crois pas que si on voulait se demander quelles sont les grandes tendances qui traversent l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, on dirait que c'est la montée de ce qu'on appelle, en abréviation, l'OTC, donc over the counter, pour dire que c'est des médicaments que les gens peuvent aller chercher quasiment en vente libre, à condition qu'il y ait un pharmacien. Donc franchement, je ne crois pas que ce soit une très grande tendance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de labos qui vendent leur practice OTC. Ils ne voient pas ça comme une opportunité de marché qui soit suffisamment attractive. Il y en a qui les rachètent, mais il y en a qui les vendent. Donc franchement, c'est une tendance qui me paraît contrastée.
La théorie économie néoclassique postule en tout cas que le patient est rationnel. Il ne consomme que les soins dont il a besoin. Or, selon la sociologue Virginie Gimbert, on observe en France une surconsommation de médicaments. On l'écoute.
En France, la consommation de médicaments est à un niveau très important. Et ça renvoie à deux types d'enjeux. Un enjeu en termes de dépenses publiques, puisque les dépenses de médicaments sont portées en particulier par l'assurance maladie, mais aussi à des enjeux sanitaires, donc sur les individus qui utilisent ces médicaments, mais aussi sur la population en général, si on pense aux résidus de médicaments qui sont rejetés dans l'environnement. Cette consommation inappropriée peut s'expliquer par trois facteurs. D'une part, par des pratiques professionnelles à la fois des médecins et des pharmaciens qui poussent à une consommation importante de médicaments. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a une organisation du système de santé qui favorise aussi cette consommation de médicaments, notamment par le fait que le médecin et le pharmacien ont des rémunérations qui sont à la fois à l'acte pour le médecin et aussi pour le pharmacien en proportion du nombre de boîtes vendues. Donc on est sur des rémunérations qui n'incitent pas à la modération de la consommation de médicaments. Et enfin, un dernier point qui est très important, c'est la représentation collective qu'on a du médicament en France, où on considère que le médicament est quand même une prise en charge de premier recours plutôt que d'être une solution parmi d'autres prises en charge possibles comme on peut le voir dans d'autres pays.
Nathalie Coutinet, ce que nous dit ici Virginie Gimbert, c'est que le patient et le médecin peuvent avoir tous deux intérêt à une surconsommation de médicaments.
Alors, il faut distinguer déjà plusieurs types de médicaments, comme vous venez de le faire. Il y a des médicaments qui sont à prescription médicale obligatoire, ce qu'on appelle PMO. Et donc là, le patient doit passer par son médecin. Et des médicaments qui sont PMF, c'est-à-dire à prescription médicale facultative. Et là, nous pouvons aller nous les acheter à la pharmacie. Alors, le médicament, c'est un bien particulier parce qu'il est prescrit par le médecin. consommé par le patient et lorsqu'il est, dans ce cas-là, PMO, il est pris en charge la plupart du temps par, financièrement par les organismes de remboursement. Donc finalement, le consommateur, celui qui mange le médicament, si vous me permettez cette expression, n'est ni le prescripteur ni le payeur. Alors ça donne une situation particulière. Alors de là à dire qu'on serait surconsommateur de médicaments PMO, c'est les médecins. Alors là où effectivement ce que vous disiez préalablement peut jouer, c'est-à-dire que avec Internet, les patients ont acquis une compétence, une certaine compétence, pas une compétence totale, mais une certaine compétence sur des médicaments, compétence qu'ils n'avaient pas ailleurs. Ils ont pu acquérir de l'information, ce qui peut leur donne la possibilité d'influencer la prescription médicale, c'est-à-dire je veux tel médicament auprès de leur médecin, etc., ce qu'on n'était pas capable de faire précédemment. Pour autant, les médecins sont quand même extrêmement contrôlés dans leurs prescriptions, puisqu'ils ont des normes, enfin de prescriptions à respecter pour pas développer, mais peut-être que le médecin qui est là ce sera plus précis. Pardon. Et ce qui fait que cette surconsommation, elle est quand même relative. Mais c'est vrai que sur certains, et c'est très connu, hein, sur les antidépresseurs par exemple, la France est un gros consommateur d'antidépresseurs.
Jean-David Zeitoun, ce que disent au contraire les firmes, c'est qu'elles perdent 30 milliards de dollars en raison d'un non-respect des doses prescrites. Et c'est pour cela, disent-elles, qu'elles essaient de plus en plus de s'imposer comme des interlocuteurs, des patients. Vous parleriez, vous, d'une surconsommation ?
Alors, pour répondre à ce qu'a dit la sociologue, il y a deux points où je suis franchement pas d'accord avec elle. Le premier, c'est de dire juste la France est surconsommatrice de médicaments. C'est une vérité qui est trop agrégée pour être vraie. C'est-à-dire que ça dépend, d'abord ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ça baisse, il y a des périodes où ça monte. Et ensuite ça dépend du type de médicaments dont on parle. Vous avez parlé des antidépresseurs, mais il y a d'autres classes de médicaments ou familles de médicaments dans lesquelles les statistiques nous positionnent derrière certains pays européens. La deuxième chose qui je pense est fausse, et je ne vais pas polémiquer, c'est de dire que le paiement à l'acte du médecin l'inciterait à prescrire des médicaments. Je pense que c'est juste totalement faux. Moi, je ne suis pas plus payé si je prescris un médicament par rapport à si je donne juste un conseil d'hygiène de vie. Donc, dire que c'est un mécanisme avec des effets pervers forts, ça me paraît inexact. Ensuite, je ne sais pas, pour répondre à ce que vous m'avez dit, je ne connais pas cette citation des firmes. Vous pouvez me la redire et puis après, j'essaierai de répondre précisément.
Les firmes estiment qu'elles perdent 30 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires perdues en raison d'un non-respect des doses prescrites.
Oui, c'est possible, mais d'un autre côté, elles doivent aussi en gagner parce que des fois, on prescrit des médicaments qui pourraient ne pas être prescrits. Donc franchement, je me méfie un peu de cette estimation. Je pense que d'un côté, il y a des patients qui ne sont pas traités alors qu'ils devraient être traités. Ça, je suis d'accord avec ça. Et de l'autre côté, il y a des patients qui sont traités par excès, soit parce que le médecin va se tromper, soit parce qu'on ne peut pas toujours prédire quand est-ce qu'un médicament va être indiqué.
Et ma question, c'est aussi, est-ce que ça explique ce rapport de plus en plus direct de l'industrie pharmaceutique avec les malades?
Alors, pour répondre à la question précédente, c'est toute la question de l'observance, en fait. Des traitements. Et effectivement, les firmes pharmaceutiques se mettent à faire des recommandations d'observance parce que elles se rendent compte que les patients ne suivent pas toujours la totalité des traitements qui ont été prescrits. Et c'est là où elles perdent. Alors, je sais pas, ce chiffre, effectivement, il circule. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est pas vrai? Ça, je ne sais pas. C'est un chiffre qui circule. Mais en tout cas, il y a beaucoup de firmes qui mettent en place des programmes d'observance pour que les patients respectent et suivent leur traitement jusqu'au bout.
Alors, et je pense qu'il faut pas être dupe. Évidemment, les firmes font ça pour maximiser leur chiffre d'affaires. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il y a à la fois un enjeu. Si les patients, quand ils doivent prendre leurs médicaments, le prennent bien, tout le monde doit tendre vers ça, y compris le système de soins. Et évidemment, les firmes font ça aussi dans l'idée que ça va permettre de ne pas rater des ventes. Par exemple.
Alors, ce qui nous amène à cette question de la conception et de la fabrication du médicament, ce qu'il faut commencer par dire, Nathalie Coutinet, c'est que c'est un secteur industriel très rentable dont la croissance est ininterrompue depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, c'est un secteur très rentable, c'est un secteur dont la croissance effectivement est ininterrompue. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est un secteur industriel comme un autre. C'est-à-dire que les firmes pharmaceutiques ne sont pas altruistes, ne sont pas là pour faire le bien commun ou le bien public. Elles sont là pour gagner de l'argent. Elles en gagnent d'ailleurs beaucoup. Elles sont fortement financiarisées. C'est-à-dire que les marchés financiers ont fortement investi ces firmes. Et donc, elles se comportent comme la plupart des industries mondialisées et financiarisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont découpé leur processus, leurs étapes de production et que ces étapes de production sont renvoyées ou localisées là où les coûts de production sont les plus faibles. Donc elle se comporte comme n'importe quelle industrie. Alors il y a plusieurs étapes. D'abord, dans le médicament, il y a un élément essentiel, ce qu'on appelle l'API, c'est le principe actif. Ce principe actif, il est généralement maintenant pour les médicaments chimiques produits en Inde et en Chine pour 80%. Et puis ensuite, il y a ce principe actif, on va l'associer à des ingrédients qui sont des ingrédients de l'industrie agroalimentaire assez basiques. Et puis on va lui donner sa forme, ce qu'on appelle galénique, c'est-à-dire on va faire des gélules, des pastilles, des sirops, etc. Et puis ensuite, il va être conditionné et puis acheminer dans les différents pays. Et ça, c'est ça qui est relativement nouveau dans ce secteur, c'est que c'est décomposé mondialement avec quand même ce qu'on appelle un façonnage, c'est-à-dire une sous-traitance de plus en plus accrue des étapes de production.
Est-ce qu'on peut faire remonter ces changements, Nathalie Coutinet, aux années 90, au moment où le modèle du blockbuster, que je vous laisserai nous expliquer, est obligé d'évoluer? C'est-à-dire que c'est un modèle qui avait cours dans les années, entre les années 70 et les années 90.
Un modèle blockbuster, le blockbuster, c'est un médicament qui rapporte plus d'un milliard de dollars par an. C'est les grands médicaments, le Viagra, le Clamoxy, l'augmentin, bon, des médicaments qu'on a tous eu, enfin peut-être pas le Viagra, mais en tout cas le Clamoxyl et l'augmentin dans nos pharmacies à un moment donné.
Je n'ai pas encore eu le Viagra.
Non plus, évidemment.
Vous tournez vers
moi. Non, pas du tout. C'était pour avoir votre accord sur le Clamoxyl et l'augmentin, qui sont des antibiotiques assez fréquents. Alors, ce modèle blockbuster est reposé sur ce qu'on avait dans le travail qu'on a fait avec Philippe Abécassis, développé sur plusieurs piliers. Des droits de propriété, d'abord, qui permettent aux firmes d'avoir des positions de monopole pendant une durée relativement longue, 20 ans, voire 25 ans, sauf si, évidemment, un nouveau médicament est trouvé. Des ventes importantes, qui était soutenue par des stratégies marketing relativement agressives, et puis des innovations très fréquentes, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le pipeline pharmaceutique, c'est la réserve de molécules qui sont en phase de recherche et développement, donc qui vont arriver sur le marché, et donc des molécules qui se renouvelaient de manière extrêmement fréquente. Donc les firmes étaient assises comme ça sur un système qui était extrêmement rentable.
Et c'est un modèle qui vacille à partir des années 90.
Alors c'est un modèle qui vacille dans les années 90. Pour différentes raisons. D'abord parce que les organismes de remboursement commencent à être vraiment, avoir des contraintes financières fortes et donc vont essayer pour les médicaments les plus âgés de développer des génériques. Parce que aussi le rythme de recherche sur les médicaments chimiques se ralentit et que les biotech, les biotechnologies que les firmes attendaient vont mettre du retard, grosso modo 10 ans de retard pour faire arriver les médicaments. Ils arrivent dans les années 2000 plutôt que dans les années 90. Donc, ce qui fait que, Donc, du coup, les firmes ont un peu un mouvement de flottement. Et donc, dans le travail qu'on a fait avec Philippe Abécassis, on a considéré qu'elles allaient adopter de manière transitoire ce qu'on a appelé un modèle générique, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles vont se mettre à développer des génériques. Plus ou moins rapidement, Novartis assez vite, Pfizer beaucoup plus tard.
Alors, mais avant de faire ça, ça s'est quand même traduit par des pertes financières importantes, Nathalie Coutinet, pour l'industrie pharmaceutique.
Oui, ça s'est traduit par des pertes, mais néanmoins, elles ont, grâce aux génériques, conquis de nouveaux marchés, ce qu'on appelle le marché des pharmerging, c'est-à-dire d'un certain nombre de pays émergents, la Chine, le Brésil, la Russie, mais il y en a plus que ça. Et donc, ces marchés ne pouvant être pénétrés que par des génériques, parce que les autres médicaments sous brevet étaient beaucoup plus chers. Et donc, elles vont adopter à la fin des années 90 et au début des années 2000 ce modèle comme transitoire pour ensuite se tourner, mais on le verra peut-être après, vers un modèle beaucoup plus rentable, plus proche du modèle blockbuster, mais tourné plutôt vers les biotech.
Jean-David Zeitoun, sur ce qu'a représenté ce passage à un nouveau modèle économique pour les industries pharmaceutiques lorsqu'un très grand nombre de brevets est arrivé à échéance dans les années 90.
Oui, il y a eu plusieurs périodes de perte de brevets, notamment dans les années 2010 aussi. Donc très récemment, ça a été une période où beaucoup de brevets de blockbusters sont tombés. Par ailleurs, il y a aussi des cycles dans la productivité ou dans la production de l'industrie pharmaceutique. Il y a eu, par exemple, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, entre 2007 et 2011, il y avait peu de nouveaux médicaments qui étaient commercialisés chaque année, plutôt aux alentours de 15, 20, 25 max, alors que la moyenne était plutôt à 30, 35, et que ça fait 5 ans qu'on est entre 45 et 60 si vous prenez par exemple le nombre de nouveaux médicaments qui sont autorisés par le régulateur américain et aussi un peu par le régulateur européen. Donc il y a des cycles comme ça, il y a des périodes où elle se porte mal, et donc pendant les périodes où elle se porte mal, elle a tendance à prôner les fusions-acquisitions. Et puis il y a des périodes où ça va un petit peu mieux, et quand ça va mieux, elle se débrouille par elle-même, ou alors elle va racheter à des prix assez extravagants des biotech. C'est-à-dire qu'il y a des biotech qui se font racheter plusieurs milliards alors qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires, par exemple, ça existe. Ou alors que la valorisation de la biotech correspond à un multiple de ce qu'on appelle l'EBE, qui est largement au-dessus des standards de marché.
Vous parliez des fusions-acquisitions. Quel est l'objectif de ces concentrations de firmes auxquelles on a beaucoup assisté aussi dans les années 90?
Alors, les motifs peuvent être multiples. Le motif le plus fréquemment utilisé, c'est je vais acquérir une firme qui dispose d'un blockbuster important, et donc je vais en fait acheter le blockbuster. Ça, c'est une possibilité. C'est sans doute le plus standard. Il y a aussi eu, dans les années, au début des années 90 et à la fin des années 80, beaucoup de ce qu'on appelle de fusion-scission, c'est-à-dire quand une époque où les pharmacies avaient aussi, enfin, été intégrées à la chimie, et donc elles se sont séparées des activités chimiques, et puis elles se sont recentrées sur la pharma. Et aujourd'hui, on observe même des recentrages sur des aires thérapeutiques ou sur des méthodologies de recherche. Donc, ça peut être aussi ça. On va se séparer de certaines activités, et puis on va en acquérir d'autres pour renforcer sa spécialisation, ce qu'on appelle du recentrage. Il y a aussi eu des vagues de fusion-acquisition autour des génériques. Quand les firmes se sont tournées vers les génériques, on peut penser à Pfizer par exemple, Pfizer a acquis plusieurs génériqueurs, à la fois dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, notamment en Inde. L'Inde qui est un pays traditionnellement dans lequel il y a une grosse industrie du générique. Voilà. Donc il peut y avoir différentes motivations. Le recentrage, l'acquisition de brevets.
Et peut-être mieux négocier vis-à-vis des pouvoirs publics, être en position de force, Nathalie Coutinet.
Alors, c'est un secteur qui est pas aussi concentré qu'on pourrait le penser, en fait. C'est-à-dire que par rapport aux grands secteurs mondialisés, l'industrie pharma est relativement concentrée. Donc, c'est pas tellement un motif de concentration pour du pouvoir de marché. C'est plus de la concentration, ce que je disais, recentrage, acquisition de brevets ou pénétration de marchés étrangers, notamment les marchés du Sud.
Jean-David Zeitoun.
Oui, le pouvoir de marché, ils l'ont tous naturellement, puisque par définition, ils ont le monopole sur le médicament, qui est protégé par le brevet. Et donc, le pouvoir de marché, quand ils vont voir un payeur, chaque labo a à peu près le même pouvoir de marché quand il va négocier un prix avec son payeur. Donc, effectivement, je pense que les fusions-acquisitions, c'est souvent pour acheter un portefeuille, ou parfois pour des motifs de juste économie d'échelle, par exemple. Alors, ils disent toujours, ce qu'ils ont toujours tendance à dire, que c'est pour acheter un portefeuille ou pour stimuler R&D, avec toujours une deuxième raison, ou parfois qui est peut-être la première et qu'ils ont moins tendance à vanter, qui est le fait que on va pouvoir faire des économies d'échelle, donc ça veut dire supprimer des postes.
Vous parliez tout à l'heure, Nathalie Coutinet, de la financiarisation des firmes pharmaceutiques. Quels ont été les effets de cette financiarisation? Est-ce que cela a entraîné un changement de stratégie de la part de l'industrie?
Alors, dans toutes les industries, la financiarisation, ça conduit à modification des méthodes de gestion, puisque ça veut dire que l'objectif majeur de l'entreprise, ça va être de produire de la valeur pour l'actionnaire, la valeur actionnariale. Alors à partir de là, effectivement, ça veut dire que les stratégies des firmes sont guidées par la distribution de dividendes. Donc il faut effectivement rationaliser, c'est le terme poli pour dire faire des économies d'échelle, supprimer des postes, etc. Il faut se recentrer, parce que les investisseurs considèrent, il y a une théorie en finance qui dit que c'est à l'actionnaire de faire de la diversification de portefeuille et pas à la firme. Donc les actionnaires aiment avoir des firmes qui sont très centrées, parce que c'est plus lisible. Ça entraîne aussi de la sous-traitance ou de la décomposition de la chaîne de valeur, ce qu'on a observé aussi dans l'industrie pharma, c'est-à-dire d'aller produire là où on peut, enfin quand on le peut, là où c'est le moins cher. Donc toutes ces stratégies que je décrivais au début, c'est des stratégies qui sont en grande partie guidées par la finance. C'est-à-dire que si on avait des entreprises qui n'étaient pas financiarisées, pour lesquels les objectifs seraient de développer des produits de bonne qualité uniquement, on n'aurait sans doute pas des firmes qui auraient ces stratégies et qui se comporteraient de cette manière-là.
En l'occurrence, les médicaments les plus rentables, ce sont les pathologies fréquentes, plutôt dans les pays à revenus élevés.
Dans les pays du Nord, bien sûr. Pardon. Oui, c'est aujourd'hui, c'est essentiellement l'oncologie, c'est-à-dire le traitement du cancer, ou alors certaines maladies très très fréquentes dans les pays du Nord. Alors par Parkinson, Alzheimer, ça, elles cherchent tout, enfin, beaucoup cherchent parce que là, il y a des très, le premier qui va trouver un médicament pour Parkinson ou Alzheimer.
Parkinson, il y en a déjà plein. Alzheimer, il n'y en a pas.
Qui serait vraiment très efficace. Voilà, aurait un brevet mondial et donc sur les marchés du Nord gagnerait énormément d'argent. Et puis il y a aussi les aires thérapeutiques qu'on a considérées orphelines, c'est-à-dire les maladies pour lesquelles il n'existe pas aujourd'hui de traitement satisfaisant. Et là aussi, c'est des secteurs qui sont potentiellement rentables parce que les régulateurs vont accorder des prix très élevés pour justement développer ces traitements.
Jean-David Daizeitou.
Ouais, je me méfie un tout petit peu du terme financiarisation parce que je pense qu'il porte en lui quelque chose de péjoratif. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est très capitalistique. Après, on n'a pas encore réussi à développer un médicament avec moins de 100 ou 200 millions d'euros et en général, c'est beaucoup plus que ça. Donc, elle est financiarisée aussi par nécessité si on veut développer.
C'est ce qui permet l'innovation.
Ah ben, si elle n'avait pas de capital, ça...
Mais n'importe quelle industrie a besoin de capital. L'automobile aussi. Toutes les industries dans lesquelles... L'innovation est importante.
Non, l'industrie du logiciel n'a pas besoin de beaucoup de capital, par exemple.
L'industrie automobile a besoin de capital.
Je suis d'accord, mais pas toutes les industries. Il n'en reste pas moins que si on veut des médicaments, il faut du capital. Je suis pas en train de dire qu'elle gagne trop ou pas assez d'argent, je rentre pas dans ce débat-là. Mais après, dire que c'est une industrie qui est capitalistique, ça, c'est une nécessité biologique. Personne encore n'a réussi à faire un médicament avec peu d'argent. Ça n'existe pas. Et ensuite, il y a un truc qui s'appelle le marché, et c'est pas moi qui l'ai fait, qui est que... Le capital va vers les industries rentables. Voilà, c'est tout.
Alors, on l'a dit...
Nathalie, on ne peut pas laisser dire ça comme ça, tout à fait, quand même. Hein. D'abord, et là, il y a une très, très grosse hypocrisie, et puis même quasiment, c'est quasiment un scandale. C'est-à-dire qu'une grosse partie de la recherche des médicaments est financée par le public, est réalisée dans les hôpitaux, est réalisée dans les laboratoires publics. Les firmes se saisissent souvent de ces innovations quand on a passé la recherche fondamentale et elles font la recherche appliquée. Et elles surestiment, et ça c'est très, très connu. Alors on n'a pas les chiffres exacts, évidemment, parce que c'est un secret absolu, mais elles surestiment fortement les coûts de R&D. Et tous les secteurs sont pas fortement financiarisés et on peut faire de l'innovation sans la finance.
Vous parliez de la recherche, je voudrais vous faire écouter Claude Le Pen qui est professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine et pour lui, les firmes s'appuient en effet bien souvent sur des éléments de recherche fondamentales qui sont menés par les universités publiques dans un contexte où l'innovation, on l'a dit, est un enjeu central.
Il est évident que la concurrence joue. C'est ce qu'on appelle en économie industrielle la patent race, la course au brevet. Et celui qui gagne le brevet a, c'est vrai, sur les autres un avantage comparatif. Il servira de référence pour les autres. Il fixera les normes en termes d'efficacité et de prix. Et donc, il va donner un petit peu le la du marché. Cela dit, il y a une coopération quand même, peut-être pas entre firmes, mais au moins entre firmes et labos publics. Parce que l'essentiel de la recherche jusqu'à présent était plutôt une recherche publique pour des universitaires qui s'intéressent à ce type de virus, y compris en France. Hein. C'est-à-dire que dans le laboratoire P4 à Lyon, il y avait des gens qui travaillaient sur Ebola parce que c'est un virus intéressant, c'est un virus qui posait des problèmes de santé publique localisés avant qu'il prenne cette dimension épidémique. Donc, et puis, à partir du moment où, c'est vrai, ça devient un problème global, que ça touche un peu l'Occident, faut bien le dire, les firmes se mobilisent et essayent de trouver dans la recherche fondamentale de quoi nourrir des produits.
Donc les coûts de l'innovation, j'en avais dit, tous ne sont réels, mais la recherche publique sert aussi.
Oui, bien sûr, c'est pas du tout contradictoire. Bien sûr, évidemment, ce que disent les gens qui critiquent l'industrie et qui est vrai, c'est que la solidarité publique solvabilise les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire que en amont, la recherche fondamentale vient de plus en plus depuis 50 ans de la recherche publique, et que en aval, c'est aussi la solidarité nationale qui, en général, rembourse les médicaments. Il y a pas de problème avec ça.
Mais ça donc, ne change justifier pas la réalité de marché que j'ai décrit tout à l'heure. Justifier des coûts et des prix très élevés pour un certain nombre de médicaments, alors même qu'une partie de la recherche est financée par le public, peut sembler du coup plus contestable.
C'est un débat. Le coût n'est, franchement, c'est vrai qu'il est maintenu opaque par les industriels, mais c'est pas très difficile non plus de le calculer rétrospectivement. Il suffit de diviser le coût, enfin les investissements en R&D d'une firme, de les annualiser et de diviser ça par le nombre de médicaments qu'ils fabriquent. Et vous saurez pour chaque firme, et d'ailleurs ce ne sont pas les mêmes firme par firme. Il y a des laboratoires qui sont plus ou moins productifs. Pfizer, par exemple, avait été décrit par un leader d'opinion américain comme le labo qui dépensait le plus d'argent pour mettre un médicament sur le marché, de l'ordre de 5 milliards. Et il y a des labos qui se débrouillent mieux, et chez qui c'est plutôt de l'ordre du milliard. Donc on peut estimer quand même si eux gardent certaines données confidentielles, on peut estimer le coût par médicament. Et d'ailleurs, c'est plus souvent des économistes que des laboratoires qui font ça.
Nathalie Coutinet, c'est plus difficile que ce qu'a l'air de dire Jean-David
Zeitoun. Oui, c'est plus difficile, bien sûr, parce que est-ce que toute la recherche va sur tel type de médicament, etc. Moi, je pense que là, c'est pas tellement le débat. Si on regarde les dividendes versés par les pharmas, moi, j'ai pris 2017, j'ai pris les trois plus gros payeurs de dividendes en France. Le premier, c'est Total, 6 milliards d'euros de versement de dividendes. Derrière, c'est Sanofi, 5,66 milliards d'euros de dividendes. Et ensuite, troisième, BNP Paribas, avec 3,37 milliards d'euros. Donc, ce qui fait que les dividendes versés par Sanofi sont quasiment les mêmes que ceux de Total. Alors, si les prix des médicaments n'étaient justifiés que par la R&D, donc la recherche et développement, je vois pas comment Sanofi ferait des bénéfices aussi énormes. C'est donc forcément que le prix des médicaments est bien supérieur à ce qui permettrait de financer les coûts de R&D.
C'est aussi ce que dit la revue Forbes, c'est que l'industrie pharmaceutique génère les meilleurs retours sur investissement pour les actionnaires. Comment on explique cela, Jean-Luc?
Alors, c'est pas l'industrie la plus rentable au monde. L'industrie de l'internet, par exemple, ou de la big tech, est souvent plus rentable. Mais c'est une des industries les plus rentables. Et donc, la seule raison de marché que j'ai à vous proposer, c'est que le capital va vers les industries rentables. Je sais pas si on peut contester ça.
Non, mais le prix est trop élevé.
C'est-à-dire que le prix des médicaments. C'est une autre question. C'est-à-dire que de savoir si tel médicament doit valoir 100 000 par an ou 150 000 par an, je pense que c'est pas tout à fait lié à ça. Est-ce que l'industrie pharmaceutique gagne trop d'argent? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est parce qu'elle redistribue beaucoup d'argent. Moi, je parle pas d'actionnaires, je parle d'investisseurs. C'est parce qu'elle redistribue beaucoup d'argent à ses investisseurs qu'elle peut continuer à lever du capital sur les marchés.
Un actionnaire n'est pas forcément un investisseur.
Non, mais en général, c'est des...
Pas du tout. Quand c'est des actions qui sont revendues sur le marché. Vous savez qu'en France, les investissements sont financés à hauteur de 2,56% par les marchés financiers. Donc le reste, c'est de la spéculation. C'est du placement d'argent et c'est pas des investisseurs, ce sont des actionnaires qui ont des titres et pour avoir de l'argent, pour faire des plus-values. Point. Il faut arrêter le mythe de l'actionnaire investisseur. On est dans un truc complètement mythique. Les chiffres donnent des informations complètement différentes.
Ça pose en tout cas la question de la détermination des prix. On va en reparler dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
La pharmacie anglaise, entrée par le côté. Mettez-vous bien à l'aise, puis vous remarquerez que tout va de travers, mais ce sera sans souci. Vous êtes à votre affaire dans l'anglaise pharmacie. Dans la pharmacie anglaise, il y a pour patienter des sofas, des théières et de grands calumets d'opiumane. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. Pommade aux extraits de fair play. Granules de fin whisky, pince sans rire en cachet, aspirine au brandy. Dans la pharmacie anglaise, tout le monde veut y rentrer. Élégante foutaise et excentricité. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. Dans la pharmacie anglaise, ça devient déjanté. Last Dance Craze d'un chapelier toqué. Jelly en émulsion. Essence de pain d'épices, fighting spirit en flacon, élixir Redivis. Dans la pharmacie anglaise, je vais y retourner. j'aimerais qu'elle te plaise et tu pourras te soigner dans la pharmacie anglaise.
La pharmacie anglaise de Bikini Machine. Nous poursuivons notre discussion sur les nouveaux défis de l'industrie du médicament en compagnie de Nathalie Coutinet et de Jean-David Zeitoun. On parlait tout à l'heure du fait que les entreprises pharmaceutiques recourent de plus en plus à la sous-traitance internationale. Quels sont les risques de ce recours croissant et notamment la question qui se pose de plus en plus, Nathalie Coutinet, c'est la question des ruptures de stock.
Alors effectivement, il y a deux risques majeurs. Il y a un risque de qualité, de problème de qualité. On sait que dans certains pays du Sud ou certains pays d'Asie en particulier, il y a plus de problèmes de qualité que dans les pays du Nord. Et puis le deuxième risque, qui est aussi important, c'est la question des ruptures, puisque dans la mesure où les entreprises produisent aujourd'hui ce qu'on appelle en flux tendu, c'est-à-dire qu'elles ont relativement peu de stock, eh bien s'il y a un problème dans la chaîne de fabrication quelque part, eh bien ça va entraîner des ruptures, alors généralement ponctuelles, mais enfin des ruptures quand même.
Des ruptures de stock qui sont aussi liées à la demande croissante de médicaments. Alors, dans les pays émergents.
Ça, c'est plutôt pour les ruptures ponctuelles. Il peut y avoir des ruptures plus longues. Alors, pour différentes raisons, ça peut être des problèmes de qualité dans une usine. C'est le cas du Cinémé pour Merck qui refait son usine et qui était le seul producteur mondial de ce produit. Donc, ponctuellement, il n'y en a plus ou quasiment plus. Il peut y avoir effectivement des problèmes à cause de la forte croissance de la demande sur certains vaccins, par exemple, avec les pays émergents et notamment la Chine qui devient un très gros consommateur de médicaments. On pense que il va quasiment passer assez vite comme devant les États-Unis qui est le plus gros consommateur mondial aujourd'hui de médicaments. Il peut y avoir aussi, et c'est ce qu'arguent les firmes de manière, je trouve, assez malhonnête, des questions de prix sur les génériques, c'est-à-dire qu'elle considère que les prix sont trop faibles et donc c'est plus intéressant de produire tel ou tel médicament. Alors elles oublient quand même que pendant toute la période du brevet, elles ont fait des marges extrêmement conséquentes, mais c'est un argument qui est avancé. Il peut y avoir des problèmes de qualité dans certains traitements, dans certaines usines. Enfin voilà, différentes raisons peuvent expliquer les pénuries.
Jean-David Zeitoun, sur ces pénuries et les problèmes, les conséquences que cela engendre?
Non, c'est un vrai problème. Ça touche plein de pays, pour ne pas dire la plupart. Et ça peut toucher différentes familles de médicaments, des médicaments qui ne sont pas essentiels ou alors qui sont remplaçables, auquel cas le problème n'est pas très important. Mais ça a touché aussi des médicaments beaucoup plus critiques, voire c'est arrivé même en cancérologie avec des substitutions qui étaient assez hasardeuses.
Alors la question que j'aimerais poser maintenant, c'est celle des biotechnologies qui sont arrivées, donc vous le disiez, dans les années 2000, mais c'est vraiment dans les années 2010 qu'elles ont marqué un tournant pour les firmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces biotechnologies, en quoi elles sont différentes des princeps et des génériques présents sur le marché?
Alors, le princeps, c'est un terme qui regroupe un médicament qui est innovant et protégé par brevet. C'est pas un médicament qui est forcément un biotech. Alors, les biotech, elles sont arrivées, c'est un nouveau paradigme de recherche, c'est d'une façon complètement différente. Alors, je suis ni biologiste, ni médecin pour expliquer techniquement comment on fabrique un médicament, mais c'est une nouvelle technologie de recherche complètement différente, puisque ça appartient d'organismes vivants, enfin, pour faire très simple, mais vous me corrigerez, parce que je pense que on peut préciser. Alors, ça a entraîné, évidemment, c'est pas les mêmes façons de faire, donc des compétences nouvelles pour les entreprises, des coûts extrêmement élevés, parce qu'il faut modifier les façons de faire. Donc elles ont souvent externalisé dans des start-up ces biotech. Et ce qui a posé problème pour les firmes, c'est aussi que les médicaments qu'elles attendaient, c'est ce que je disais tout au début, sont arrivés avec grosso modo une dizaine d'années de retard. C'est-à-dire qu'elles avaient fait le pari de pouvoir mettre sur le marché des médicaments avant. Ils arrivent aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui, comme vous le disiez, aujourd'hui il y a énormément d'autorisations de mise sur le marché. C'est à peu près 10 ans, grosso modo, une grosse dizaine d'années par rapport à ce qu'elles attendaient.
C'est ce qui explique les prix très élevés.
Alors, ce qui explique les prix très élevés, c'est que ce sont des médicaments qui sont très innovants. Effectivement, ce sont des médicaments qui, parce que leur processus de soins, de traitement, mais là encore, je pense que vous pourrez être plus précis, est totalement différent et donc amène des améliorations thérapeutiques majeures. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays développés, les prix sont fixés en fonction de l'amélioration thérapeutique, de l'efficacité thérapeutique. Et effectivement, du coup, les firmes se saisissent de ça et disent, comme c'est très innovant, eh bien, vous allez le payer très cher. Mais elles disent pas parce que ça nous a coûté très cher. Elles disent parce que c'est très innovant. Et aujourd'hui, on assiste ce qu'on appelle en termes techniques le délinkage. Le délinkage, c'est-à-dire que les prix sont aujourd'hui déconnectés du coût de R&D. Donc il n'y a plus ce truc qui existait, c'est-à-dire le lien ou l'argument qui était de dire faut des prix élevés pour financer la recherche. Aujourd'hui, même les firmes admettre que c'est plus ça.
Aujourd'hui, la justification, c'est le bénéfice, la justification de ces prix élevés, le bénéfice qu'en retire la société, Jean-David Zeitoun.
Oui, aujourd'hui, les industriels ne disent plus quasiment que ça. En fait, il y a trois ordres d'arguments, à mon sens, pour justifier les prix élevés qui ont été utilisés historiquement par les laboratoires. Le premier, c'était de dire, ça coûte très cher. Le deuxième, c'était de dire, si on fait pas d'argent, on pourra pas lever le capital. Donc, on en a parlé. Et le troisième, maintenant, ils disent moins les deux premiers. Et ils disent surtout, oui, c'est cher, mais ça les vaut. Pour le dire de façon un peu vulgarisée.
Justement, à quoi est due cette augmentation des prix? Je vous propose d'écouter le point de vue de Jean-Paul Vernant. Il est professeur d'hématologie à la Pitié-Salpêtrière.
Si je parle de la cancérologie, je pense qu'il y aura avant tout des médicaments de niche. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une dissection moléculaire des différents cancers. Avant, il y avait le cancer du côlon. Maintenant, il va y avoir bientôt 10, 20, 30 cancers du côlon. Et c'est évident que, à ce moment-là, l'industriel ne va plus traiter, par exemple, en France, 40 000 cancers du côlon, mais va traiter 300, 1000, 3000, 4000 en fonction des anomalies moléculaires. La tendance de l'industriel va être de dire au lieu de traiter mon médicament, au lieu de traiter 40 000 malades, en traite 4000, je vais faire payer 10 fois plus cher. Mais à ce moment-là, la somme globale sera multipliée par 10 et on ne pourra plus se payer ces innovations. Donc là, il y a un vrai problème. Je ne pense pas qu'en cancérologie, on aille vers un médicament qui pourra traiter des millions et des millions de malades.
Voilà un extrait d'une émission du Graham Hout sur France Culture. C'est aussi parce que ce sont des molécules qui s'adressent à un petit nombre de patients.
Alors, c'est assez drôle d'écouter. Donc, Jean-Paul Vernant, il faut savoir, et là encore, je le dis de façon neutre, que c'est quelqu'un qui milite contre l'industrie pharmaceutique, en tout cas qui régulièrement dénonce dans des tribunes de presse les prix élevés et les profits élevés de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Ce qu'il dit est seulement très partiellement vrai. Et alors, c'est drôle qu'il dise ça parce que lui, il a été concerné en hématologie. Parce que, effectivement, il y a eu une innovation assez impressionnante en hématologie. Mais si vous prenez, par exemple, les médicaments en cancérologie dont tout le monde parle aujourd'hui, qui sont les immunothérapies, c'est des blockbusters formidables du monde d'hier. Ils s'adressent potentiellement à tous les
patients.
Ils ont
le même modèle économique
Ils essayent de valider leur efficacité dans absolument tous les cancers. Donc, on est loin d'être une niche, c'est même exactement l'inverse. Donc, ce qu'il dit est partiellement vrai. Il y a effectivement des cancers qui sont découpés en dizaines de sous-entités pour essayer d'aborder le plus précisément possible leur mécanisme moléculaire. Et d'un autre côté, il y en a d'autres, mais c'est pour ça que la pharmacie, c'est un business qui est toujours imprévisible. Il y en a d'autres qui arrivent alors que ça fait 50 ans qu'on en parle de l'immunothérapie. Et là, ça fait depuis 2011-2012 que c'est une réalité, qui sont des nouveaux traitements qui s'adressent potentiellement à plus ou moins tous les malades qui ont un cancer. Ou en tout cas, à tous les cancers, même si chaque malade ayant un cancer du poumon ne sera pas candidat. Mais peut-être que chaque cancer est potentiellement candidat à se poser la question d'une immunothérapie.
Ça pose en tout cas des questions de soutenabilité des systèmes de remboursement et aussi d'égalité d'accès au traitement.
Alors, ça pose d'énormes problèmes de soutenabilité parce que c'est pas parce que, et c'est là où l'industrie pharmaceutique, excusez-moi, mais se fiche du monde, il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, ces médicaments sont très innovants. Ça, c'est sûr. On a le cas aussi du soposbuvir de ces Gilead qui soignent l'hépatite C. Donc, c'est évidemment une innovation majeure. On n'est pas en cancérologie, etc. Mais rien ne justifie les prix. Pour vous donner un exemple, il y a deux médicaments, deux anticancéreux qui ont coûté plus de 600 millions d'euros à l'assurance maladie. Deux anticancéreux. Il y a certains médicaments dont la prise, l'injection est à plus de 1000 euros, voire 1400 euros sur des anticancéreux. Donc on est sur des niveaux de prix qui rendent la soutenabilité des systèmes assurantiels compromise. C'est là moi je pense que d'une certaine manière l'industrie pharmaceutique est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, parce que il est clair que les contraintes, en plus dans un monde libéral où il faut faire des économies de dépenses publiques et on nous le rappelle tous les jours, je vois pas comment on peut concilier des profits des firmes pharmaceutiques qui sont faites quand même sur le dos des systèmes de santé, parce que dans les 5,6 milliards d'euros de dividendes de Sanofi, il y a une partie, pas la totalité, mais il y a une grosse partie qui vient du système de santé, du système d'assurance, de la sécurité sociale. C'est de l'argent de la sécurité sociale qui est redistribué aux actionnaires, parce que sans sécurité sociale, il n'y aurait pas de solvabilité du marché. Hein, on voit dans les pays dans lesquels il n'y a pas de système de sécurité sociale, qu'il soit public ou privé, peu importe. Si on voit l'Afrique, par exemple, l'Afrique n'est pas un marché pour le médicament. C'est pas qu'il n'y a pas de malades. Il y a des malades, sauf qu'il y a des malades qui sont pas solvables.
Alors on va entendre Jean-David Zeitoun sur cette question. Est-ce que l'industrie pharmaceutique n'est pas en train de scier la branche sur laquelle elle est assise? Je peux juste donner l'exemple du Royaume-Uni qui ne prend plus en charge des anticancéreux comme l'Avastine ou le Katsila.
Ouais, alors je pense que le Royaume-Uni prend un gros risque de faire ça parce qu'il expose sa population à un non-traitement dans certains cancers. Donc s'il y a bien quelqu'un qui prend un risque, c'est la personne au Royaume-Uni qui a décidé de ne plus prendre en charge l'Avastine pour les gens qui ont un cancer.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de pays qui ne risquent pas de faire la même chose à cause des prix trop élevé.
Je pense que c'est trop sensible politiquement pour que tous les pays se mettent à dérembourser les médicaments.
Effectivement, les pharmas. C'est-à-dire que les associations de patients, imaginez que votre enfant, votre mère, votre père ait un cancer et qu'on vous explique qu'il y a un traitement, que ce traitement existe, soignerait votre père, votre frère, votre enfant, qui que ce soit, mais que parce qu'il est trop cher, il sera pas pris en charge. Évidemment que les associations de patients jouent un rôle extrêmement important, que vous le disiez, je suis d'accord, politiquement c'est extrêmement sensible. Associations de patients qui sont quand même souvent financées par les laboratoires pharmaceutiques, par ailleurs, mais bon, peu importe. Et donc, effectivement, ces associations de patients font pression sur les pouvoirs publics, direct ou indirect d'ailleurs, pour que ces médicaments soient remboursés. Donc on est dans un jeu complètement fou. Et là-dessus, Monsieur Vernant a raison, on est dans un jeu fou.
Les industries pharmaceutiques sont en tout cas en position de force dans la Zeitoun, ce qui pose aussi la question de la capacité de l'État à négocier face à l'industrie pharmaceutique.
Ouais, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont super chers. Après, aujourd'hui, la dépense médicamenteuse globale, le budget médicamenteux de l'État, depuis les 5 dernières années, il a peu bougé. Il y a des années où il a un peu baissé, il y a des années où il a un peu augmenté. Parce que l'État...
Mais on est au tout début de l'arrivée sur le marché des biotech.
Voilà, moi je pense plutôt ça. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a aucune menace. Par contre, je pense que bientôt, ça va être compliqué et qu'il va falloir qu'on trouve des moyens de se mettre d'accord parce que le problème, c'est les 50 médicaments qui arrivent sur le marché chaque année. Aujourd'hui, il y a 600 chimiothérapies qui sont dans les pipelines en phase avancée. Si ces 600 chimiothérapies arrivent sur le marché dans les prochaines années, je ne sais pas comment l'équation va être résolue.
Donc, ce que vous dites, c'est que le modèle n'est pas soutenable à plus long terme.
On ne peut pas imaginer que ces 600 chimiothérapies vont toutes être pricées à 100 000 euros par an. Ça, je suis d'accord.
Nathalie Coutinet.
Alors, pour répondre quand même, pour donner un élément de précision, effectivement, les dépenses d'assurance maladie sur les médicaments, on peut évoluer grâce à l'introduction des génériques. Finalement, ce qui compense, ce qui permet d'une certaine manière de maintenir les dépenses de médicaments,
mais ça, c'est
parce qu'on réduit.
C'est
un jeu qui est sain. Sauf que aujourd'hui, et vous allez voir ce que vont dire les industries du médicament aujourd'hui sur les pénuries, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que disent les industries pharmaceutiques, c'est que le prix des génériques est trop faible et que comme il est trop faible, elles vont arrêter de le produire. Alors, on est quand même dans un truc absolument fou où effectivement le système est pratiquement soutenable. Je dis bien pratiquement parce que il y a quand même de la sélection des patients. Enfin, ça, bon, on pourra éventuellement y accorder une seconde ensuite. Le système est presque soutenable parce qu'il y a des génériques qui sont très peu chers et que ça fait des économies qui permettent de dépenser un peu plus sur les nouveaux médicaments. Mais si les firmes nous disent, ah bah oui, mais comme les génériques, ils sont beaucoup trop peu chers, on va arrêter de les produire. Alors là, c'est quand même absolument dément. Et puis, dernier élément, ce que font les médecins aujourd'hui dans les hôpitaux sur certaines pathologie, c'est qu'ils sélectionnent, compte tenu du coût de certains traitements, ils sélectionnent les patients qui peuvent bénéficier, c'est le cas par exemple des patients qui ont l'hépatite C, tous les patients qui pourraient bénéficier du médicament ne l'ont pas, compte
donc
tenu
un
de
accroissement
son prix.
Des inégalités.
Et
important.
Donc on sélectionne, alors on peut faire confiance, et je fais toute confiance aux médecins pour sélectionner avec toute l'éthique nécessaire, etc. les patients, mais ça veut dire quand même que tous les patients qui pourraient bénéficier d'un traitement n'y ont pas accès en raison de son prix. Et je rappelle quand même qu'on est sur des industries qui font des profits monstrueux. Monstrueux. Donc il y a quand même des choses à faire.
Justement, ce que peuvent se dire un certain nombre de gens, c'est que le prix des innovations thérapeutiques du cancer, par exemple, est essentiellement déterminé par l'idée que l'industrie se fait de la capacité du marché à absorber ses coûts, parce qu'on a du mal à comprendre comment ces prix sont déterminés. Vous disiez tout à l'heure, Jean-David Zeitoun, que c'était lié au bénéfice social, mais alors concrètement, comment on détermine ce prix?
Ah bah il y a des méthodologies scientifiques qui ont été développées surtout par des économistes de la santé et pas par les industriels, qui permettent de déterminer à partir de quand un médicament est considéré comme coût efficace.
Voilà,
coût efficace, ça ne veut pas dire que le médicament fait faire des économies au système de soins. Ça veut dire que le surcroît de santé qu'il apporte est commensuré au surcroît de prix qu'il propose par rapport à son prédécesseur ou à son concurrent. Et donc aujourd'hui, vous avez des entités soit académiques, soit non académiques dans beaucoup de pays qui essayent justement de sophistiquer les méthodologies de calcul pour essayer de savoir à partir de combien un médicament va être considéré comme coût efficace compte tenu de ses résultats cliniques. En France, c'est la HAS qui est censée faire ça. Je suis pas sûr qu'elle ait un niveau d'expertise qui soit extraordinaire. Le pionnier mondial, c'est le NICE au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, vous avez une entité aux États-Unis qui est en train, à mon sens, de prendre le lead sur, de dominer un petit peu le marché de l'opinion, qui est un institut qui s'appelle l'ICER, c'est l'Institut pour l'évaluation économique et clinique des médicaments.
Mmh. Et il y a une autre stratégie.
Ces entités sont très influentes. Les industriels les regardent beaucoup, parce que quand ils se prennent un râteau de la part de l'ICER, ce qui arrive, qu'on leur dit, Alain, c'est beaucoup trop cher, eh ben, ils ont tendance à baisser leur prix.
Alors, je voudrais quand même dire que ces évaluations coût efficace, hein, c'est ce qu'on appelle les QALY. C'est-à-dire qu'en fait, on va calculer l'efficacité d'un médicament en fonction de l'utilité des années de vie ou des mois de vie en bonne santé du patient. C'est quand même complètement délirant. C'est du délire d'économiste, et j'en suis une, et pas de ce type-là. Hein, c'est quand même délirant parce qu'on est sur, on calcule, on utilise les méthodes libérales de l'économie néoclassique où on va chiffrer l'utilité pour le patient et pour la société d'être en bonne santé, et compte tenu de cette utilité, c'est-à-dire que c'est zéro si vous êtes mort, si un si vous êtes en bonne santé, et au milieu, on va dire bon, bah si vous êtes une moitié de vie en bonne santé, ça vaut tant. Et comme ça vaut tant, le médicament va valoir tant. C'est juste complètement stupide.
Hein. Alors, je respecte le fait que ça ne vous plaise pas, mais je ne crois pas. Non, j'entends ça. Mais ça reste aujourd'hui la seule méthode qui permette à l'industrie de tendre vers des meilleurs médicaments. C'est-à-dire qu'on leur dit, plus le médicament sera bon, plus il sera rentable pour vous.
Oui, mais ça c'est bien, mais ça dépend du niveau de rentabilité. C'est bien qu'on récompense l'innovation, ça je suis tout à fait pour, mais qu'on la rénove.
Il n'y a pas aujourd'hui d'autres méthodes établies, à mon sens, utilisées par aucun État.
Peut-être des méthodes à inventer, Nathalie Coutinet.
Peut-être des méthodes à inventer, mais en tout cas des méthodes qui permettent la soutenabilité de nos modèles de santé, de nos modèles de remboursement, qui encore une fois sont des modèles qui solvabilisent la demande et qui permettent à l'industrie pharmaceutique.
Mais si vous regardez les travaux de l'ICER et de Steven Persson qui est son président, vous verrez bien qu'il y a deux colonnes dans sa réflexion. Il y a une première colonne qui est le rapport coût-efficacité et il y a une deuxième colonne sur laquelle il est en train de gagner un peu la bataille des idées qui est l'impact budgétaire. Donc ce n'est pas incompatible.
On ne va clairement pas vous mettre d'accord aujourd'hui, mais je vais vous demander un dernier mot, Nathalie Coutinet, peut-être en guise de conclusion. On arrive au terme de cette émission, mais selon vous, quels sont les défis et peut-être les enjeux éthiques, justement, un mot qu'on devrait peut-être plus prononcer quand on parle de ce sujet qui entoure la conception et la production de médicaments.
Ah ben justement, la question éthique, c'est de permettre le soin et l'efficacité. Ce que font les firmes, elles produisent des médicaments efficaces et on peut les en remercier. Mais que maintenant,
ces médicaments. Ça n'est pas beaucoup entendu aujourd'hui. On n'a pas entendu beaucoup de merci.
Je finis par le dire.
On finit sur une
note très positive. Merci à l'industrie. Merci aux organismes de recherche publique. Merci aux universités qui concourent tous ensemble à la production de médicaments efficaces. Maintenant, il faut que ces médicaments efficaces soient vendus à des prix raisonnables, c'est-à-dire qui rémunèrent les firmes, bien évidemment, mais qui permettent aussi la soutenabilité des systèmes de santé.
Et là, je renvoie à une question que je posais tout à l'heure à Jean-David Zeitoun, mais qui est le rôle de l'État. On a le sentiment que l'État, aujourd'hui, n'est pas en position de négocier avec les firmes.
Les États ils se sont pas donné les moyens de conserver la main. Finalement, ils ont perdu la main pour plusieurs raisons et aussi parce qu'au niveau européen, il n'y a pas de modalité de fixation des prix qui soit coordonnée au niveau européen, ce qui permettrait d'être plus et de peser plus sur les firmes.
Et puis l'industrie pharmaceutique représente 10% des exportations françaises.
Alors il y a aussi un chantage à l'emploi qui est bien connu, mais imaginez bien que si autant une firme peut dire un laboratoire peut dire à un pays je ne vends pas parce que j'ai pas le prix que je souhaite dans votre pays, autant les firmes ne peuvent pas ne pas avoir la totalité du marché européen. On serait plus fort.
Et c'est l'heure de retrouver les nouvelles de l'écho avec Arjuna Andrade. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de vous intéresser aujourd'hui à ce que l'on appelle outre-Atlantique le Green New Deal.
Mais oui, c'est une proposition portée aux États-Unis par les associations environnementalistes et une partie de la gauche et qui consistera en une transformation en profondeur de l'économie américaine pour en faire la nation pionnière en matière d'énergie renouvelable et de transition énergétique. Ce plan a ainsi pour ambition de mobiliser sur les 10 prochaines années les capitaux, la main-d'œuvre et les compétences américaines pour faire sortir les États-Unis des énergies fossiles et former les travailleurs américains aux métiers d'avenir. L'objectif est donc de se saisir de l'urgence écologique pour moderniser l'économie américaine et créer des millions d'emplois à forte valeur ajoutée. En clair, des investissements massifs dans les transports propres, les énergies vertes et les systèmes agricoles durables, mais aussi la fin des subventions aux énergies carbonées qui maintiennent aujourd'hui le pétrole et le charbon à des prix extrêmement compétitifs et attrayants. Le projet prévoit aussi des assurances en matière d'emploi et de revenus.
Autant d'éléments qui s'inspirent directement du New Deal mis en œuvre par le président Roosevelt dans les années 1930.
Absolument. Au lendemain de l'une des pires crises financières et économiques de l'histoire, le président Franklin Delano Roosevelt décide de mettre en place le fameux New Deal, grand plan de relance visant à sortir le pays de la dépression. Il prévoit notamment l'investissement dans de grands projets de modernisation du pays et un programme ambitieux de formation des travailleurs. Mais l'initiative la plus révolutionnaire est celle du Civilian Conservative Corps qui fait de l'État fédéral américain l'employeur en dernier ressort pour des millions de jeunes hommes célibataires mobilisés pour réhabiliter des terres arables, entretenir les forêts et autres activités bienfaitrices pour la société. 80 ans plus tard, la logique est la même puisque le Green New Deal, élaboré par certains élus démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, élue à la Chambre des représentants lors des dernières élections, propose la création d'une garantie de l'emploi au niveau fédéral pour assurer une transition viable à tous les travailleurs des secteurs touchés par la transition énergétique.
Les partisans du Green New Deal insistent particulièrement sur la complémentarité de l'économique et de l'écologique.
Mais oui, ce que tentent de faire comprendre les défenseurs du Green New Deal, c'est que la mise en œuvre dès aujourd'hui d'une transition écologique radicale n'est pas seulement une option politique, mais bien une question de survie. Il s'appuie notamment sur les travaux du GIEC, affirmant qu'il ne reste plus qu'une dizaine d'années à l'humanité pour opérer un changement radical de ses modes de production et de consommation, sans quoi la hausse des températures et le dérèglement climatique deviendront irréversibles, avec les conséquences désastreuses que l'on ne fait aujourd'hui qu'entrevoir. Face aux opposants et aux sceptiques, qui expliquent que jamais les États-Unis ne pourront transformer leur économie en l'espace de 10 ans, Alexandria Ocasio-Cortez réplique que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Elle explique que ce dont les États-Unis ont besoin aujourd'hui, c'est d'un véritable leader capable d'impulser un changement profond de la société et de l'économie. Un discours qui a tout d'un programme en somme.
L'élu démocrate a d'ailleurs une idée assez précise, Arjuna, sur la manière de financer cette transition.
Mais oui, Alexandria Ocasio-Cortez, aussi appelée AOC, Outre-Atlantique, a proposé de taxer jusqu'à 70% les revenus supérieurs à 10 millions de dollars. Une proposition de taxation des Américains les plus riches, soutenue par des économistes tels que Paul Krugman, Peter Diamond ou encore Emmanuel Saez. En France, c'est l'économiste Thomas Piketty, connu pour son travail sur les inégalités, qui salue cette proposition de justice fiscale. Difficile cependant d'imaginer la mise en œuvre immédiate de ce projet de Green New Deal avec un président ouvertement climato-sceptique et un Sénat contrôlé par les Républicains. Mais il y a fort à parier que le sujet sera central lors des prochaines élections présidentielles en 2020 et que la révolution viendra peut-être une fois de plus de l'Amérique.
Des New York Dolls. Merci beaucoup Nathalie Coutinet et Jean-David Zeitoun de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Rendez-vous demain à 14h pour un débat consacré au juste prix du soin dans notre semaine consacrée à l'économie de la santé. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.